Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. C'était Elisabeth II et la traduction française d'une biographie de Sarah Bradford consacrée à la reine Elisabeth II. Historienne et biographe déjà connue pour ses travaux sur George VI, Diana ou Jacqueline Kennedy, Bradford met à profit un long travail documentaire. Nourri notamment d'un accès aux archives privées de Buckingham Palace et d'entretiens avec des proches de la souveraine. L'ouvrage ne se limite donc pas au récit d'un règne exceptionnellement long, il cherche à cerner la personne derrière la fonction, sans dissocier sa vie familiale des transformations politiques du Royaume-Uni et du Commonwealth. La progression est chronologique, de l'enfance dans l'entre-deux-guerres aux crises de la fin du XXe siècle, en passant par la guerre, l'accession au trône et la décolonisation. Cette biographie a pour ambition de montrer comment Elisabeth II a exercé une charge constitutionnelle très codifiée tout en affrontant les contraintes d'un mariage, d'une maternité et d'une famille exposées en permanence au regard public. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une formation princière façonnée par l'abdication, la guerre et le sens du devoir. Bradford replace l'enfance d'Elisabeth dans une configuration dynastique qui n'avait rien d'évident au départ. Sa destinée bascule avec l'abdication d'Édouard VIII et l'accession de son père, George VI, au trône. La future reine est alors préparée beaucoup plus directement à une fonction qu'elle n'avait pas été appelée à exercer à sa naissance. Ce déplacement est essentiel pour comprendre le livre La Stabilité. La réserve et l'attachement aux devoirs attribués à Elisabeth II ne sont pas présentés comme de simples traits de tempérament, mais comme le produit d'une éducation adaptée à une responsabilité devenue imminente. La Seconde Guerre mondiale constitue l'autre expérience structurante. Elle inscrit la jeune princesse dans une nation soumise aux privations, aux bombardements et à une mobilisation collective, tout en lui donnant une première forme de rôle public. Bradford relie ainsi la formation personnelle de la souveraine au contexte historique britannique. Le portrait évite de réduire Elisabeth à une icône immobile, il montre comment une jeune femme, protégée mais confrontée au bouleversement de son temps, apprend progressivement à représenter la continuité. Cette partie éclaire aussi la rencontre avec Philip Mountbatten, dont l'importance affective et institutionnelle pèsera sur toute la suite du règne. Deuxièmement, exercer une monarchie constitutionnelle au moment du recul de l'Empire britannique. L'un des apports majeurs de cette biographie est de replacer le règne d'Elisabeth II dans la redéfinition profonde de la puissance britannique après 1945. Lorsqu'elle devient reine en 1952, puis est couronnée l'année suivante, la monarchie demeure associée à un empire qui se transforme rapidement sous l'effet des indépendances. Bradford s'intéresse à la difficulté particulière d'incarner une institution héritée de l'âge impérial tout en devenant le symbole d'un Commonwealth composé d'États souverains. Ce cadre permet de comprendre que le rôle de la reine n'est pas réductible aux cérémonies ou à la vie de palais, il dépend d'un équilibre entre tradition, neutralité politique et capacité de représentation internationale. L'auteur suit également les grands bouleversements vécus durant le règne. Guerre froide. Évolution des gouvernements britanniques, mutation sociale et recul de l'influence mondiale du Royaume-Uni. Elisabeth II ne gouverne pas au sens exécutif du terme. Sa position constitutionnelle l'oblige précisément à ne pas intervenir ouvertement dans la lutte politique. La biographie montre néanmoins le travail de continuité qu'implique cette retenue, en reliant les obligations quotidiennes de la souveraine au changement de l'État et du Commonwealth. Bradford fait de son sujet un observatoire de l'histoire britannique contemporaine plutôt qu'une seule chronique familiale. Troisièmement, le couple Elisabeth-Philippe, l'équilibre délicat entre mariage privé et hiérarchie dynastique. Bradford traite le mariage d'Elisabeth et de Philippe comme un élément central de l'architecture du règne. Leur union ne constitue pas seulement un épisode sentimental antérieur à l'accession au trône, elle confronte durablement deux personnes à une hiérarchie institutionnelle, inhabituelle dans laquelle l'épouse est souveraine et le mari doit trouver une place publique sans exercer l'autorité suprême. L'ouvrage examine les tensions créées par ce décalage entre les attentes traditionnelles envers un mari, la personnalité affirmée de Philippe et les exigences de la couronne. L'intérêt de cette approche est de ne pas isoler la sphère conjugale du fonctionnement monarchique. Les choix relatifs au nom de la famille, à l'éducation des enfants, au déplacement ou à la représentation officielle prennent une portée politique et symbolique parce qu'ils concernent la famille régnante. Bradford aborde aussi les interrogations et les rumeurs qui ont entouré le couple, avec l'objectif de mesurer ce que cette relation a coûté et apporté à la reine, sans pouvoir vérifier toute intimité conjugale au-delà des sources disponibles. La biographie souligne une donnée durable: Philippe fut à la fois un partenaire indispensable et une figure difficile à intégrer aux conventions du palais. Cette tension aide à comprendre la discipline d'Elisabeth II, qui devait préserver son mariage tout en donnant priorité à sa fonction. Quatrièmement, mère. reine et chef de famille les crises des Windsor comme épreuve institutionnelle. La biographie accorde une place importante aux conflits familiaux qui ont affecté l'image de la monarchie, en particulier dans les dernières décennies du XXe siècle. Les séparations et divorces de plusieurs enfants de la reine, les relations tendues entre Charles et Diana, ainsi que la mort de Diana en 1997, ne sont pas traités comme de simples sujets de presse. Bradford les analyse comme des événements qui révèlent les limites d'une famille organisée autour de règles de retenue, de devoirs et de confidentialité, alors que l'environnement médiatique réclame désormais émotion, transparence et réaction immédiate. La reine se trouve dès lors prise entre plusieurs responsabilités mère d'adulte en difficulté, grand-mère, garante de la réputation de la dynastie et chef d'État tenue à une expression publique mesurée. Cette superposition des rôles permet d'éviter une lecture uniquement psychologique de ses décisions. La distance souvent reprochée à Elisabeth II correspond aussi aux contraintes d'une fonction qui ne lui autorise guère les gestes spontanés. Bradford n'escamote pas pour autant les conséquences de cette réserve, les crises montrent que les réflexes de la cour peuvent paraître décalés face à une opinion publique. Transformée. Le livre étudie ainsi les Windsor comme une famille réelle, marquée par des désaccords et des vulnérabilités, mais dont chaque rupture devient simultanément une question constitutionnelle et médiatique. En dernier lieu, moderniser l'image royale sans renoncer au principe de continuité. Le fil directeur du livre est la capacité d'Elisabeth II à faire durer une institution ancienne dans une société qui modifie ses attentes envers l'autorité, la famille et les médias. Bradford ne présente pas cette adaptation comme une conversion soudaine à la modernité. Elle la décrit plutôt comme un processus prudent, souvent déclenché par les circonstances, dans lequel la reine cherche à préserver les principes fondamentaux de la monarchie, neutralité, service, rituel et permanence, tout en ajustant sa représentation publique. Les crises familiales, l'expansion de la télévision et la personnalisation accrue de la vie politique rendent cette évolution inévitable. La difficulté consiste à devenir plus accessible sans transformer la couronne en simple spectacle ou en tribune d'opinion personnelle. Cette tension explique une part de l'intérêt du portrait de Bradford, la souveraine, y apparaît moins comme une personnalité omnipotente que comme la gardienne d'un cadre institutionnel dont elle doit constamment arbitrer les formes. L'auteur met aussi en valeur la force pratique de la routine royale audience, cérémonie. Voyages et rencontres ne sont pas de vains décors, mais les instruments par lesquels la continuité est rendue visible. Cette lecture permet de comprendre pourquoi la longévité du règne a elle-même constitué une ressource politique. À force de présence, Elisabeth II est devenue un repère au sein d'un pays et d'un Commonwealth traversé par des changements considérables. En conclusion, c'était Elisabeth II, s'adresse d'abord au lecteur, qui souhaite comprendre la reine au-delà de l'image protocolaire, ainsi qu'aux amateurs d'histoire britannique, de biographie politique et de récits consacrés au Windsor. Il conviendra particulièrement à ceux qui cherchent une vue d'ensemble documentée. L'ouvrage relie l'itinéraire individuel d'Elisabeth II à l'abdication, à la Seconde Guerre mondiale, à la décolonisation, au Commonwealth et aux crises médiatiques de la monarchie. Son intérêt intellectuel est de faire percevoir les contraintes concrètes d'une monarchie constitutionnelle, régner sans gouverner, représenter sans prendre parti. Protéger une institution tout en composant avec une famille publiquement vulnérable, par rapport au livre uniquement commémoratif ou centré sur les scandales royaux. Sarah Bradford se distingue par l'ampleur historique de son sujet et par l'attention accordée aux ressorts privés et institutionnels d'un même règne. Son accès prolongé à des sources et à des témoins proches de la cour nourrit un portrait informé, sans dispenser le lecteur d'une lecture critique propre à toute biographie royale. La construction chronologique aide à mesurer les transformations plutôt qu'à juxtaposer les épisodes célèbres. Le livre n'est donc pas seulement utile pour connaître les principaux événements de la vie d'Elisabeth II, il éclaire la manière dont elle a incarné, pendant plusieurs décennies, la continuité d'une institution contrainte de se redéfinir dans un Royaume-Uni profondément changé. Si vous souhaitez soutenir Sarah Bradford, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.